affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Bonjour, je suis Lydia Arambourg, correspondant à l'Académie des Beaux-Arts, historienne de l'art et critique d'art. Je suis en compagnie de Vincent Pietrica, bonjour.
Bonjour Lydia.
Professeur de philosophie, ancien galeriste et commissaire de l'exposition dont nous allons parler. Le titre de cette exposition, « Présence de la peinture en France, 1974-2016 ». Elle réunit 10 peintres, et parmi lesquels il y a un sculpteur et un graveur, Boubounel, Desmazières, Diaz, Garel, Trieur, Séguéla, Safran, Taimer, Véli, Vinardel. L'exposition a été initiée par M. Marc Fumaroli de l'Académie française, avec quelques assistances, dont Vincent Pietrica, Jean Clerc de l'Académie française et moi-même. L'exposition a lieu à la mairie du 5e arrondissement, place du Panthéon, dans le 5e arrondissement. Elle se déroule jusqu'au 30 octobre, du lundi au samedi, de 10h à 18h. Vincent Pietrica, parlez-nous de la genèse de cette exposition. Comment s'est-elle construite ?
Eh bien, c'est à l'origine une idée de Marc Fumaroli qui a conçu le projet de partager avec le public ce qu'il avait pu redécouvrir ou découvrir rue l'Université dans la galerie que j'ai tenue il y a quelques années. Il y a 2 ans, quand son projet a commencé à se concrétiser, il m'a chargé de réaliser avec lui et pour lui une exposition qui aurait montré certains des peintres qu'il avait déjà connus à ma galerie et d'autres qui travaillent dans le même esprit et on ne pourrait pas dire dans la même ligne, mais avec la même fécondité.
Alors, je crois qu'effectivement, cette exposition réunit 10 artistes qui sont tous dans une même histoire, une histoire de la peinture, une histoire de la peinture figurative, il faut tout de suite le préciser. Présence de la peinture en France. Alors, peut-être que vous avez quelques précisions à nous donner sur ce titre qui peut paraître un peu énigmatique quand on n'a pas les noms des 10 artistes présents et aussi si on ne les connaît pas toujours. Alors, dites-nous un petit peu plus précisément ce qu'il en est.
Oui, donc un ami de Marc Fumaroli s'était entendu dire en Italie que la peinture n'existait plus, que la peinture était morte. C'est une proposition très générale, très absolutiste d'une certaine façon, à laquelle il suffisait pour répondre de ne produire, on n'aurait pu ne produire qu'un seul peintre. On en a trouvé 10, il n'y aurait pu en avoir
beaucoup plus, oui. Quelques-uns, parce que c'est un courant qui est quand même très actif et très fécond depuis ces années 80.
Quelques-uns, en tout cas, il suffisait d'un groupe particulier pour ruiner cette proposition excessive. La peinture aurait tout à fait disparu. Le titre de l'exposition ne fait que témoigner tout simplement qu'il y a encore de la peinture, il y a eu de la peinture, il y en a encore, et il est impossible de soutenir que la peinture est morte, que la peinture n'existe plus.
Alors je me permettrai d'ajouter à ce mot « présence » un mot qui l'accompagne. On pouvait choisir ce mot « présence » qui effectivement installe bien une certitude. Et moi, j'ajouterais un autre mot pour que tout de suite nous puissions développer ce choix et parler de cette présence justement de la peinture en France, présence figurative, c'est permanence. La permanence de la peinture qui pour moi est extrêmement évidente parce que la peinture, qu'elle soit figurative ou abstraite, c'est un métier, c'est un enseignement, c'est la pérennité d'un enseignement qui est dispensé effectivement dans des écoles. Et il y avait l'école des Beaux-Arts, et puis il y avait la Casa de Velázquez. Alors l'école des Beaux-Arts a connu tout un chambardement au moment des années 68. Tout un enseignement du dessin a disparu, ce qui a été très déplorable. À la Casa de Velázquez, il y a eu une continuité de cet enseignement. Et alors, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est qu'effectivement, l'essentiel, la majorité de ces peintres est issue de la Casa de Velázquez. Ça veut dire que déjà, on est avec des artistes qui ont un métier. Et cette permanence du métier, pour moi, elle est essentielle. Et elle installe vraiment ce que vous avez souhaité faire de cette exposition et de montrer donc la peinture, mais la peinture figurative. Alors vous allez nous en donner encore un petit peu plus comme information sur ce choix.
Vous voulez dire sur le choix
le choix des artistes que vous avez qui sont présents dans l'exposition peut-être.
Donc vous voulez qu'on passe directement aux artistes individuellement ou
Non, c'est vrai qu'on va... Alors, vous coupez, et on va reprendre à partir de la... Vous allez peut-être dire ce que vous aviez préparé, là, l'histoire de Kant, non? Qu'est-ce que c'était?
Non,
c'est parce que je voulais vous faire intervenir, c'est pour ça que je voulais que ça soit un peu équilibré. Mmh. Bon, alors, on repart avec l'idée de la permanence de la peinture. Donc, la Casa de Velázquez.
Une permanence.
Alors, parlez justement. Oui. Dites la permanence.
Donc, oui, une permanence, une continuité de l'expérience aussi humaine de ce qu'est l'œuvre d'art, le besoin de produire, d'écrire, de composer la musique et de peindre, mm-hmm. bien sûr, de graver, de sculpter. Et une permanence de la société qui entoure les peintres, une permanence des galeries, des conservateurs, des critiques, des collectionneurs. Mmh. Il y a toute cette société entourant la peinture qui est présente, qui est toujours là en France.
Alors, je pense que là, on peut peut-être entrer un peu plus avant. Il y a l'aspect, je dirais, technique, la matérialité de la peinture, et puis il y a aussi donc la pensée, l'esprit. Et tous ces peintres sont issus, donc, ils ont un héritage. Ça, c'est incontestable. Ils ont l'héritage du métier, donc ils ont appris. Ils ont l'héritage de l'esprit. Et c'est dans une grande continuité de cette peinture française qui ne connaît aucune interruption. Et ça me frappe énormément parce que, il y a des écoles où il y a des périodes plus faibles. Et en France, c'est vrai que depuis le XVIe siècle, il y a une grande, grande continuité qui s'écrit autour de deux éléments majeurs qui sont le dessin et la couleur, avec des périodes qui donnent une priorité à l'un ou à l'autre. Mais tout ça se resserre autour d'une volonté de composer, de savoir construire un tableau, ça c'est très important, construire un tableau pour lui donner un équilibre, pour lui donner une harmonie, et l'harmonie vient avec la lumière qui est dispensée sur toute la surface du tableau. Et alors, il y a un autre élément qui est très important, c'est cette fidélité, alors d'où la présence de la peinture en France, qui pour nous, je dis nous parce que c'est notre à tous, et Monsieur Fumaroli en premier, c'est ce désir, cette volonté de montrer qu'il y a une permanence au sujet. Voilà. Alors l'autre élément, c'est le sujet. Pourquoi ne pas aller vers une autre direction qui serait celle, non pas de facilité, mais qui serait celle de rompre complètement avec le monde et avec la nature. Et ce sont des peintres qui, eux, sont attachés à regarder et à transmettre et à représenter ce qu'ils voient avec leur propre émotion. Donc c'est la nature, c'est la figure humaine, et tout ça s'inscrit vraiment dans ce que j'ai appelé cette continuité, mais indéfectible, qui remonte jusque depuis les frères Lenain. On passe à Poussin, bien évidemment, il est incontournable, c'est un des grands modèles pour beaucoup de ses peintres. Et puis, on arrive à Courbet, à Corot, et puis de Rhin, et puis d'autres peintres qui, avant la guerre, étaient dans cette même obédience. Et ça, c'est important aussi de faire sentir que, sans être des épigones, ils ont leur propre sensibilité, ils ont leur propre langage, puisque c'est de langage qu'il faut bien parler. Ils s'inscrivent aussi à la suite de peintres, je dirais, comme Gromaire, comme Dunoyer de Segonzac, comme Amédée de la Patellière, comme Roger de la Fresnaye, qui sont tous très attachés au sujet et à la composition. Alors dites-moi un petit peu comment vous ressentez ce que je viens d'exposer, qui me semble être quand même dans l'esprit d'un grand classicisme, mais le classicisme n'est pas du tout passéiste, le classicisme est la permanence aussi. D'une peinture qui est vivante.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur la permanence et la continuité. Et même, je serais allé plus loin que vous. Je veux dire que vous avez commencé avec les frères Lenain, je crois.
Oui, mais on peut remonter.
Mais on peut remonter à la nuit des temps, le besoin de représentation.
Oui, là, je parlais de la peinture française. Oui. C'est pour ça que... Mais
oui,
le portrait de Jean Lebon, par exemple, qui est la première grande peinture, le portrait de Jean Lebon, qui inscrit toute une lignée de grands portraitistes. Et alors, c'est vrai qu'avec Prieur, on a cette grande tradition du portrait.
Oui, avec Prieur, absolument, oui.
Voilà.
Mais je parlais de la nuit des temps, dans le sens où c'est ce besoin et cette capacité qui sont aujourd'hui très remises en cause. Et l'exposition prouve et répond à cette objection ou faux constat que nous n'aurions plus besoin, au fond, d'une manière très étonnante, parce que dans le cinéma, à la télévision, sur Internet, partout, on vit dans la représentation. Mmh. Et au fond, l'art serait le seul domaine qui resterait privé de ce droit tout à fait originaire et même pionnier. De représenter le monde, la figure, la vie, le temps qui fait, toutes ces choses.
Absolument. Alors ça me fait évoquer tout de suite un mot qu'il faut que nous prononcions très vite, c'est humanisme, parce que ce sont tous des peintres humanistes, c'est-à-dire qu'ils ont un message à transmettre qui n'est pas seulement un message de partage d'une sensibilité par rapport à ce qu'ils ressentent face à un paysage, à une introspection psychologique avec le portrait. Il y a un désir vraiment d'aller plus loin et de montrer, alors un mot aussi qui est un peu banni aujourd'hui, mais qui est important, je sais que Marc Fumaroli tient beaucoup à ce mot aussi, c'est la beauté de l'art, parce que la beauté pas dans ce qu'elle a de figé, d'artificiel et de convenu, c'est-à-dire que c'est une beauté beaucoup plus mystérieuse, une beauté intrinsèque, la beauté de l'âme, la beauté tout simplement de savoir faire jouer les couleurs entre elles, de trouver un rythme dans la composition, donc de savoir équilibrer ses plans, de savoir faire fonctionner vraiment une construction à partir justement du dessin. Le dessin, c'est l'analyse, la couleur, c'est la part plus sensible, la part sensuelle, la part charnelle de la peinture. Et c'est ça que je trouve de très intéressant et d'important et qui existe aujourd'hui dans la peinture. Aujourd'hui, on ne sait plus comment l'appeler, peinture contemporaine, oui, la peinture d'aujourd'hui, qui est celle de ces artistes qui ont été réunis, et aussi parce que cette beauté, elle est éternelle. Donc ça positionne ces artistes comme étant des artistes de leur temps, avec un grand héritage, qu'ils savent assimiler et récurgiter avec leur propre sensibilité pour dire le monde qui est le leur et comment ils voient le monde. Et aussi parce que cette beauté, elle est permanente, elle est intemporelle et elle est bien là.
Oui, alors elle est là, mais comme une question et même un problème ou un obstacle pour beaucoup de ces peintres.
Alors dites-nous pourquoi.
C'est eux qui le disent dans la conversation. Ils ne la voient pas comme un terme, un but ou une proie sur laquelle on devrait... dans laquelle on devrait planter ses griffes et qu'on pourrait posséder et thésauriser. Mmh. C'est plus comme une sorte de présence qui les précède d'une manière très, comme vous disiez, mystérieuse. Une interrogation. Ça c'est... Une présence mystérieuse, une interrogation et une chose qui vient peut-être au passage, qui est glanée au passage, pas comme un but en soi.
Non, ça peut
ça,
pas.
Ça c'est et voilà, c'est comme un accompagnement, une accompagnatrice qui dans certaines œuvres se ferait connaître, se dévoilerait. Sans que l'artiste soit vraiment capable de la convoquer d'une manière autoritaire ou mécanique ou par une sorte de tour de force.
Alors,
c'est une question dont on parle beaucoup, surtout comme une question, c'est une interrogation autour de laquelle.
Oui, parce que la beauté, elle est métaphysique aussi. Elle est morale, elle est métaphysique, elle est spirituelle. Et ça passe donc par la lumière, par ce problème justement de l'équilibre et d'une recherche d'harmonie. L'harmonie qui serait entre la conscience de ce que nous savons et l'excellence de la forme. Et d'avoir cette plénitude, c'est une forme de beauté aussi. On a ça dans tous les arts, dans toutes les formes d'expression, je pense. Hein. Et quand je parlais de classicisme tout à l'heure, en fait, c'est un classicisme qui est à la fois une... pas une préoccupation, mais c'est parce que c'est l'aboutissement de quelque chose qui serait vraiment pleinement accompli, dans une belle plénitude, et en même temps qui serait source d'un idéal, ce vers quoi on tente. Alors c'est pour ça que le choix de ces 10 artistes est pertinent, parce qu'ils sont tous extrêmement différents, mais tout ce que nous venons d'évoquer au niveau du dessin, de la maîtrise du métier, du dessin, qui part de l'analyse et qui est donc la pensée. Et ensuite, ce sentiment qui vient, cette sensibilité qui imprègne et qui donne chair au tableau, tout cela constitue forcément quelque chose de sensible, mais de tactile et à la fois de perméable. Enfin, c'est une chose que l'on perçoit vraiment avec tous les sens. Et donc cette peinture du réel, parce qu'encore une fois, ça ne s'appuie et ça ne peut s'appuyer que sur le réel. Il se confronte vraiment à quelque chose qu'il faut faire rentrer dans le tableau, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un motif, il y a un sujet, et ce sujet, il faut qu'il soit convaincant, sans recourir, alors c'est là où justement, sans recourir à l'illusionnisme. C'est-à-dire qu'on a dépassé ce problème d'aller dans un format qui est imposé, de nous donner quand même une illusion, mais cette illusion, elle est plus forte maintenant. Elle passe par quelque chose qui transcende vraiment les outils proprement dits, qui transcende le dessin, qui transcende la couleur.
Oui, alors qu'est-ce que vous entendez précisément par illusion ?
Alors, l'illusionnisme, vous savez que la peinture, elle repose sur la perspective et que tout ça est entièrement, je dirais, fabriqué. Enfin, c'est un illusionnisme de simuler la profondeur et de faire rentrer notre regard dans un espace qui est fin puisqu'on est sur un plan. Voilà. Donc, ils sont encore dans cet héritage-là, mais ils prennent certains prennent des libertés pour justement trouver leur propre réponse, si vous voulez, à donner ce sentiment de perspective.
Ah oui, bien sûr, voilà, bien sûr. Ça. Mais toute perspective, il me semble. Il me semble que toute perspective est d'importance et a toujours été d'importance. Quand au Moyen-Âge, on représentait le roi beaucoup plus grand que ses barons et les barons beaucoup plus grands que les serfs, c'était une manière...
Les rapports d'échelle.
Voilà, mais le peintre qu'il utilise cette perspective découverte et développée depuis la Renaissance ou une autre manière d'envisager ce qui est important pour lui, ce qui est proche, ce qui est loin, ce qui doit être grand ou petit. De toute façon, son tableau n'est pas une photo. Il n'y a jamais la platitude de la photo dans la peinture. La couleur, la lumière, le dessin, mais la couleur et la lumière au même titre que le dessin, sont un élément d'une perspective d'importance. Et on le voit très bien dans quand on prend une photo en mer, on est toujours en bateau, en mer, on est toujours déçu du résultat étriqué. Parce qu'on a vécu une expérience de la grandeur, de l'immensité, et l'objet qui sort de l'appareil photo est tout misérable. Alors qu'un peintre...
Cette dimension, justement, spatiale.
Voilà. Et donc, il a la possibilité, non seulement par la perspective géométrique, mais par tous les moyens de la peinture, au fond, qui sont des moyens de perspective d'importance, de donner ce sentiment qui était le sien et qu'il a... Qu'il va nous,
et ça vient par la lumière, ça vient par ce talent, et plus que ce talent, c'est cette possibilité qui est presque miraculeuse à faire sentir qu'il y a de l'air, que le tableau respire, qu'il y a de l'air. Et ça, c'est très important. Alors, je crois que c'est ce qui caractérise justement tous ces artistes. On va, je pense, commencer à parler d'eux parce qu'il faut maintenant donner à nos auditeurs l'envie d'aller voir l'exposition. Et j'espère qu'en évoquant la peinture assez rapidement, malheureusement, parce que le temps nous est compté, mais que nous puissions quand même évoquer chacun de ces artistes avec son monde qui lui est si personnel.
Voilà. Alors, donc, en commençant par André Boubounel, qui est un peintre dont le médium est l'huile, le médium symphonique, le médium de la grande peinture, un peintre paysagiste dont nous avons la chance de pouvoir exposer 5 œuvres, dont une... sur laquelle on pourrait s'attarder, qui est La colline à Volterra. Un des grands moments de la peinture d'André Boubounel.
Vous voyez, c'est l'Italie, donc on est vraiment aussi là dans la grande tradition de la peinture italienne, certes, puisqu'il est à Volterra et qu'il voyage. C'est un peintre voyageur.
Voilà, et donc André Boubounel a commencé à peindre depuis déjà quelques décennies. Et on commence à pouvoir repérer au cours de cette œuvre quelques grands moments de victoire, comme il y a toujours dans l'œuvre d'un artiste, des majeurs, des œuvres qui se distinguent par une sorte de victoire particulière ou de réussite particulière. Donc à l'exposition, nous avons 5 très beaux tableaux, dont un qui est vraiment un des sommets pour l'instant de l'œuvre d'André Boubounel, La colline à Volterra.
Et qui est un sujet qui a été traité par Corot, dont je pense qu'il est vraiment un très bel héritier. Parce qu'il est dans cette continuité d'un lyrisme et de l'image qui laisse un souvenir très prégnant au niveau de la sensibilité. Donc c'est un métier qui est parfaitement maîtrisé, une œuvre juste et équilibrée. Vous voyez, donc toujours ces termes qui correspondent tellement à ce qu'est la peinture française depuis encore une fois plusieurs siècles. La lumière joue un rôle très important aussi. C'est elle qui permet cette répartition des masses et cet équilibre et de passer d'un plan à un autre pour nous donner cette impression de rentrer vraiment et de circuler dans le paysage.
Est-ce que vous voulez continuer sur Éric Desmazières ?
Alors, nous allons suivre l'ordre alphabétique. Alors, Éric Desmazières, qui est un graveur aquafortiste, qui a des qualités de dessinateur tout à fait exceptionnelles et qu'il peut donc transposer dans une technique de la taille douce qui requiert vraiment un métier accompli. Alors, il a, Éric Desmazières a un monde très, très spécifique qu'il développe. Ça fonctionne souvent par thème. C'est une œuvre à caractère un peu sériel, dans un monde extrêmement foisonnant, qui donne la priorité à la minutie des détails, et notamment lorsqu'il représente le magasin de Robert Capia, Galerie Vero Doda, qu'il a beaucoup fréquenté, mais aussi les intérieurs des ateliers de René Tazé, le taille-doucier chez lequel il travaille. Et puis, il y a plus récemment, Desmazières a travaillé au moment du déménagement de la Bibliothèque nationale de la rue de Richelieu, qui a libéré des espaces, des escaliers, des coursives. Et il nous en donne une vision, bien évidemment, qui ne peut pas ne pas nous faire penser à Piranèse, mais c'est une approche qui lui est éminemment personnelle. Il est préoccupé par le vide originel, et puis tout ce mystère métaphysique qui peut aussi, qui s'égrène avec ce qu'il appelle ses cabinets de curiosité où cohabitent des livres et puis des têtes de mort et des instruments scientifiques. Et là aussi, nous sommes dans un héritage éminemment français de Jacques Callot, de Charles Merion. Mais il y a aussi d'autres grands artistes qui l'admirent et qui tout de même sont proches dans son panthéon, c'est Hercule Segers et Piranèse. Voilà, alors nous avons quelques très belles eaux-fortes qui représentent justement l'atelier de René Tazé, et puis ces gravures réunissant des coquillages avec des vieilles reliures usagées, déjà rongées par le temps, par l'humidité. Voilà, le temps qui passe.
Bien, je poursuis par Gérard Dias, qui est peintre, pastelliste et graveur, dont l'œuvre est marquée par une jeunesse méditerranéenne et pleine de sensualité, d'odeur, de lumière du sud, qu'on voit très bien et magistralement traduite dans sa peinture. Oui. Dans deux grands tableaux qui représentent des paysages.
Alors c'est de l'huile également. Là.
Oui,
c'est,
des ce tableaux sont des, à l'huile.
Grande tradition de l'huile.
Des paysages d'une nature méditerranéenne sèche, oui. Chaude.
On sent cette moiteur, on sent cette chaleur qui ruisselle et qui fait exploser aussi les couleurs extrêmement saturées.
Et nous avons aussi deux gravures, deux superbes gravures qui sont elles-mêmes aussi très sensuelles, à la pointe sèche, avec des veloutés, des noirs très profonds, une immense douceur dans les contacts qui est due à la pointe sèche, et évoquant des jardins. Alors, un tout à fait méditerranéen dans son esprit, oui. Et l'autre américain, en Californie, où Dias a retrouvé des ambiances minérales et végétales qui sont proches de la Méditerranée.
Oui, oui, il représente vraiment l'inépuisable réalité d'un monde qui est celui des botanistes, mais celui aussi des contemplatifs, puisqu'il s'immerge vraiment dans cette nature dont il nous suggère l'illusion, mais qu'il fantasme à la fois, mais qui part vraiment d'une vraie réalité qui l'habite. Et
c'est une gravure d'une très grande poésie, d'un immense raffinement, d'une légèreté... bouleversante, ouais. Où on peut voir
là c'est une pointe sèche.
On peut voir des atmosphères lumineuses. Il y a dans certaines gravures, il y a des moments atmosphériques dans sa gravure.
Qui permet, bon, au moment où on est barbe, c'est justement, elle accroche la lumière, mais d'une façon frémissante, ce qui fait que ça donne un peu une sorte d'imprécision et de flou volontaire duquel se détache vraiment le
mais,
sujet.
Mais imprécision en même temps, raffinement, raffinement extrême, parce que c'est une douceur qui est tout à fait mesurée et qui est tout à fait sentie. C'est on pourrait presque, d'ailleurs, percevoir le vent. Dans certaines de ses gravures, on a un sentiment du vent, un sentiment tout à fait atmosphérique, jusqu'au vent.
Alors, Philippe Garrel.
Vous voulez poursuivre sur Philippe ?
Nous aurions dû préciser, puisque nous sommes à Canal Académie, que Éric Desmazières était à l'Académie des Beaux-Arts, dans la section gravure. Et Philippe Garrel est également un de nos académiciens à l'Académie des Beaux-Arts, donc récemment élu en section peinture. Donc voilà. Alors Philippe Garrel, ça c'est un monde protéiforme parce qu'il est peintre, mais il est aussi sculpteur. Et les sujets passent de l'un à l'autre. Donc c'est un monde extrêmement prolixe. Il y a des paysages. Et ce qu'il montre, il montre un tableau, mais pas n'importe lequel, immense, gigantesque, qui fait 2,60 m sur 3,45 m, Flux. C'est une huile et c'est un tableau absolument magistral parce que c'est une vue d'un rivage et c'est un espace infini dans lequel on rentre et dans lequel on circule. Alors, on va uniquement parler de cette peinture en sachant que l'œuvre est encore une fois extrêmement diversifiée, qu'il interroge beaucoup les maîtres et qu'il il essaye de trouver son point d'accroche à partir des grandes œuvres mythiques, aussi bien de Rembrandt que de Durer, Titien, Delacroix, Monet aussi. Et il repense le monde à partir de ces grands chefs-d'œuvre pour en donner lui-même une version qui est la sienne aujourd'hui d'homme du XXIe siècle. Donc c'est au niveau plutôt des techniques qu'il essaye de voir comment tout ça fonctionne, comment tout ça s'articule. Il dit qu'il fabrique des tableaux. Et alors, ce qui est intéressant, j'évoquais Poussin tout à l'heure, parce que c'est un des peintres, justement, auxquels beaucoup de ces artistes font référence, c'est que Poussin préparait ses compositions en fabriquant des petits théâtres et des petites, donc des maquettes avec des petits personnages qu'il habillait. Eh bien, Philippe Garrel a aussi cette pratique de façon à construire, parce que c'est ça qui est important. Nous revenons à cette idée vraiment et cette pratique de la construction d'un tableau qui doit tenir. Hein. Alors, Philippe Garrel dit « Chercher un réalisme fictif, une peinture onirique qui a l'air vrai ». Donc c'est le sujet qui permet d'accéder au réel et le réel qui permet d'accéder au sujet. Tout ça, c'est extrêmement imbriqué. Mais avec, bien évidemment, un dépassement qui est d'un ordre parfois fantasmagorique et d'un ordre onirique, donc comme le dit Philippe Garrel, et qui est d'un ordre aussi métaphysique pour nous interroger, nous faire nous interroger sur ce qu'est le réel aujourd'hui et comment nous percevons le réel. Et la peinture apporte ses réponses et celle de Philippe Garrel les donne. Alors, nous avons ensuite
Denis Prieur.
Denis Prieur. Alors,
voilà qui est représenté.
Vous l'avez exposé dans votre galerie, je crois. Non
oui, oui. À une occasion, deux occasions, une exposition de peinture de groupe, mm-hmm. une exposition de dessin au Salon du Dessin. Et à l'exposition, nous avons trois peintures et trois dessins. Deux grandes natures mortes mm-hmm. De jeunesse, ce sont toutes des œuvres
assez
de jeunesse.
Assez étranges d'ailleurs.
Oui, une nature morte au lapin écorché
oui.
et une nature morte aux têtes de brochet. Et ce sont des... Alors, le tableau est tout à fait, peut-être tout à fait étonnant, surprenant, déroutant. Mais il faut savoir qu'une tête de brochet ressemble à cela.
Oui,
et
oui.
Ressemble
mais il y a des têtes de poissons qui sont assez
ressemblent
assez
terriblement
étranges,
à oui, cela. Oui. Donc, ce sont des gueules de dragon.
Oui.
Tout à fait hérissées de dents. Mm. Avec des... ce qu'on pourrait prendre pour un radiateur. Mais qui en fait est oui. La peinture précise et magistrale des ouïes du brochet. Et pour la nature
et
morte,
les lapins écorchés.
Aux lapins écorchés, ce sont tout à fait.
Des sortes de,
c'est à cela que ressemblent des lapins
comme
écorchés.
Comme des sortes d'étendards voilà. qui sont développés. Et là, je voudrais rebondir parce que, vous voyez, présence de la peinture. Et là, vraiment, présence de la peinture, elle est évidente parce que c'est une présence et une permanence de la peinture. Et ces deux sujets qui sont plus évocateurs que naturalistes, mais l'héritage, il vient de Chardin. Et que nous donne à voir Prieur, c'est les passages entre les plans, entre les différents éléments. Ici, la peau du lapin écorchée. Il y en a une autre qui est à côté, et tout se passe dans l'entre-deux. Et c'est là que se joue la lumière, et c'est là que se joue justement la réalité de cette peinture et de cette peau de lapin écorché. Et ça, vraiment, je trouve que c'est tout à fait remarquable.
Et c'est le rejeton d'une dynastie de peintres, puisque son père était peintre et fresquiste,
oui,
et
oui,
son grand-père peintre aussi.
Vous voyez l'héritage, là
voilà,
aussi.
Voilà, c'est pour ça que je... Voilà. Je saisis la perche au vol. Nous avons aussi un autoportrait qui a été peint à l'âge de 17 ans et qui montre...
extrêmement lucide et d'une grande autorité, je dirais. Le regard est quand même assez impressionnant. Il y a une lucidité du regard. Il sait sur quoi il porte son regard et c'est sur lui-même.
Oui, il sait aussi ses moyens. Et son talent.
Oui, oui, oui.
Mais bien que l'œuvre ne soit jamais grandiloquente ni prétentieuse, mais ça, c'est évident que c'est le jeune homme à la veille de partir pour des conquêtes ou de conquérir le monde.
Absolument,
à 17 ans,
absolument.
À cet âge-là, on a ces choses
voyez,
en tête.
Vous voyez, caséine et pigment sur toile, donc ça veut dire que là aussi, il a appris le métier de peintre en expérimentant toutes les techniques. Qui était donc qui permettait d'avoir cette maîtrise après de peinture.
Et nous avons aussi trois dessins qui sont des portraits, des dessins
admirables.
Au crayon.
Ça, les dessins sont absolument somptueux.
Très beaux, dont un en particulier, le portrait de Natacha, qui est d'une d'une douceur, d'une lumière, angélique, c'est une sorte de visage flottant dans la lumière, tout à fait étonnant, attirant, mais pas c'est pas une attirance sensuelle qui va faire naître en nous, c'est une attirance face au mystère.
Et là encore, voyez, un attachement au réel qui est donc celui de la figure, de lui-même, des modèles dont il fait le portrait. Et son attachement au réel est en accord avec une vie intérieure. Et je le cite là, « pour errer librement et m'exprimer agilement avec toutes les permissions ». Donc il y a deux fois, il y a la liberté errer librement, c'est-à-dire qu'il peut tout se permettre parce qu'il sait son métier, il l'a en main. Il sait donc qu'il peut l'utiliser et l'outrepasser pour atteindre justement l'expression qu'il veut donner à son œuvre. Et il y a aussi permission. Donc il y a deux fois l'idée de liberté qui interviennent. Et ça me semble aussi très, très important, alors qu'il n'y a jamais de hasard. C'est-à-dire qu'il y a un travail vraiment qui est continué dans une ferveur, mais aussi dans une certitude et une confiance aussi et des interrogations, parce que tout ça, c'est jamais aussi tranché. Mais il ne veut pas s'aliéner non plus cette liberté qu'il considère être comme prioritaire lorsqu'on exerce un métier qui fonctionne avec la sensibilité quand même.
Oui. Je poursuis sur Gilles
Séguéla. Oui, bien sûr. Alors, parler de Gilles Séguéla.
Voilà, qui est un des grands maîtres du Fusain.
Absolument, oui.
D'aujourd'hui, dont le dessin et d'une légèreté, d'une sensibilité vertigineuse.
C'est
presque
palpable même, on sent là vraiment l'air qui est palpable.
Voilà, avec peu de contraste, ce sont des choses toujours extrêmement légères et raffinées. Et il a, dans son dessin, une manière bien à lui de réancrer le dessin dans la feuille, avec des traits qu'on voit absolument fins, mais profonds.
C'est là où joue l'écriture, justement.
Qui correspondent à des incisions dans lesquelles, en frottant la poudre de graphite, la poudre de fusain, descend et s'accumule. Ce qui fait qu'il a des lignes qui sont comme des, on pourrait dire, des haubans ou des cordes qui retiennent tout son dessin de voilà, presque s'évanouir, ça. De s'évaporer dans l'atmosphère. Et ces choses, et cette manière de retenir l'architecture du dessin est à la fois très efficace, puisque c'est très fort.
Mmh. Ce sont des lignes de force, en quelque sorte, qui sont là et qui retiennent effectivement ce qui semble se dissoudre et qui peut-être se dissolverait, je ne sais pas. En tous les cas, il écrit aussi avec ses traces du fusain, parce que c'est une poudre. Et vraiment, là, il essaye de capter tout ce que peut lui suggérer la blancheur du papier pour en faire monter la lumière. Mmh.
Et il prend, c'est un dessin aussi qui est très risqué, il prend énormément de risques.
Ah ben, parce qu'il n'y a pas de repentir, là.
Et beaucoup
il se casse la figure,
voilà, autrement. Beaucoup d'efforts, une grande intégrité dans son travail.
Ah, il y a une grande rigueur.
Il y a vraiment le sentiment d'être face à quelque chose de pur et dur. Mmh. Voilà, il va dessiner les choses de toute son honnêteté, avec tout son talent, et au risque parfois d'échouer.
Bien sûr.
Tout simplement.
Mais
c'est aussi à ça qu'on reconnaît un artiste. C'est-à-dire une personne qui aurait des prétentions sans avoir les moyens, sans avoir les moyens de l'art à laquelle elle prétend, ne se rate jamais et ne remporte. Il n'y a jamais ni défaite ni victoire. Un grand pianiste peut parfois faire une fausse note, une danseuse peut tomber. Et chez un peintre ou un dessinateur, parfois, il y a des moments difficiles et puis parfois, il y a des victoires.
Ça,
c'est une chose qu'on entend beaucoup chez André Boubounel aussi. Cette prise de risque qui est renouvelée à chaque œuvre.
Et ce qui fait leur authenticité, et ça ne trompe pas. C'est qu'effectivement, quand on voit bien, et là, avec les fusains de Séguéla, il y a une fragilité, mais dans cette fragilité, il y a une écriture ferme, une certitude du dessin. Mais en même temps, on sent très bien que tout ça peut tout à fait s'évanouir, s'évaporer. Et je pense que c'est toute la force.
Parce qu'on voit parfois aussi une manière de thésauriser.
Oui.
C'est-à-dire une personne qui a trouvé quelque chose et qui va l'accumuler et puis l'exploiter.
Se répéter. Et alors là, il n'y a plus de vie.
Voilà.
C'est complètement dévitalisé, c'est exsangue.
Absolument. Alors que chez Gilles Séguéla, c'est tout le contraire d'une thésaurisation.
Là,
c'est la prise maximale de risque à chaque dessin. Et donc, ceux que nous avons la chance d'exposer sont tous de grandes victoires.
Et un grand mystère, parce que là, il y a du mystère. Absolument. Alors, pour l'anecdote, Gilles Séguéla travaille et vit aux Andelys. C'est là où il a son atelier, qui est la ville natale de Poussin. Donc, vous voyez, quand on regarde les dessins de Poussin, effectivement, il y a cette continuité, là encore. Il y a cet héritage du dessin, du noir et du blanc, pour en faire sortir l'essentiel et qui fait que toute chose soit visible, c'est la lumière. C'est la lumière et les ténèbres.
Oui.
Et tout n'existe qu'à travers ces
Absolument.
Deux éléments.
Oui.
Et c'est ça qui est magnifique. Mmh. Et ça, Séguéla le maîtrise admirablement et avec une belle, belle sensibilité. Alors, nous avons ensuite Sam Safran. Avec un superbe, éblouissant pastel. C'est une aquarelle. Et c'est une aquarelle qui fait 2,40 m. Sur 1,50 m, donc c'est un format vertical. Alors là aussi, on a un foisonnement dans lequel l'œil s'égare et qui nous invite à finalement circuler, à nous y perdre, à nous oublier aussi, puisque cela représente un immense
philodendron
dont on ne voit plus le début ni la fin. Et tout de même, d'une façon extrêmement étrange, puisque en fait, ce philodendron a l'air de manger et d'absorber une partie de l'atelier, puisque ce sont des plantes qui, effectivement, sont proches de l'atelier, rentrent et sortent. Donc, il y a cette idée aussi du dehors et de l'intérieur, du va-et-vient entre intérieur, extérieur, dedans, dehors. Et puis une grande figure qui doit être son épouse, je pense. Hein, Lilette. Et puis donc cette table avec tous les pastels qu'il utilise et qui forment un fourmillement de petits carrés colorés. Donc c'est vraiment une œuvre magistrale. Alors Safran est connu pour d'autres thèmes puisqu'il a quand même lui aussi développé des séries. Il y a les escaliers, il y a les intérieurs de l'atelier, il y a les presses et il y a donc les serres. Et les serres, en fait, c'est un va-et-vient entre la serre et l'atelier qui n'est jamais loin puisqu'il est évoqué ici dans une toute petite partie basse à droite de cette immense aquarelle. Voilà, donc c'est la reprise de ces thèmes d'une façon un peu obsessionnelle qui réactive à chaque fois un imaginaire. Un imaginaire qui est quand même extrêmement perturbé, qui est un imaginaire à la frontière d'interrogation existentielle, enfin sans rentrer dans trop d'explications romantiques. C'est un univers tout de même assez troublant et qui n'est pas dans une, on n'est pas dans une assurance, alors que j'y vois une grande recherche de beauté. Parce que là, alors vraiment, il y a aussi un sentiment de donner à voir quelque chose qui est peut-être pas exceptionnel, mais ces escaliers qui tournent et qui s'arrêtent sur des paliers, qui basculent, ces ouvertures avec des fenêtres qui ouvrent sur un vide, qui ouvrent sur l'inconnu, sur un grand mystère, tout ça constitue un monde qui est admirablement représenté parce que Safran est un de nos grands, grands, grands pastellistes et aquarellistes et peintres aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que la technique du pastel a pris une dimension tout à fait exceptionnelle avec ce grand peintre.
Et nous continuons avec Yvan Taimer, sculpteur et peintre, dont nous exposons un bronze qui est une tête de méduse. J'aime beaucoup cette tête qui symbolise en quelque sorte l'exposition elle-même, puisque dans la mythologie, évidemment, on ne pouvait pas regarder la tête sans être pétrifié par elle. C'est-à-dire qu'il y avait un interdit de voir qui était posé sur le visage de la méduse. Et en quelque sorte, l'exposition transgresse de manière tout à fait volontaire, consciente et avec allégresse l'interdit de regarder la peinture que nous avons aujourd'hui en France dans les ateliers, les galeries, les collections particulières et certains musées. Donc c'est en quelque sorte l'icône de l'exposition, cette méduse, que nous devons regarder, bien sûr, droit dans les yeux.
On la regarde bien en face parce qu'elle elle ne doit pas du tout nous empêcher de regarder et de savourer cette grande belle peinture vous savez, il y a toute une génération de jeunes artistes. On revient beaucoup à la peinture, on revient au sujet, on revient à la figuration, parce que je pense que l'homme ne peut pas se couper de ses propres racines, qu'il y a un moment où on ne peut pas être non plus tout le temps dans le non-dit, dans ce qui n'aurait pas de forme ni de sens. Et donc, il y a une visibilité qu'il faut bien donner et redonner à voir. Et donc, cette figuration, elle est plus que jamais très vivante dans les ateliers pour aller dans beaucoup d'ateliers de peintres et pour connaître aussi beaucoup de peintres de plusieurs générations. Mais ce qui me frappe, c'est qu'on ne va pas commencer à citer des noms parce que ça serait terrible. On ne va pas pouvoir tous les citer. Et puis surtout, il ne faudrait pas uniquement centrer sur un ou deux noms. Mais aujourd'hui, il y a toute une génération d'artistes qui se revendique le droit de peindre, et de peindre selon les techniques, on va dire, de la peinture, qui sont celles de la peinture, même si on expérimente des techniques plus avant-gardistes avec les résines, avec les lacs. Enfin, mais il y a ce besoin quand même d'avoir un outil, d'avoir un médium à travers lequel passe justement quelque chose qui est de l'ordre du figuré, du figural. Parce que justement, on a ce lien étroit avec la nature, avec le monde, avec le cosmos. Ça ne peut pas être complètement toujours dans l'imaginaire et dans le supposé. Et c'est ça qui est très important. Mmh.
Et nous avons autour du bronze quatre petites
des peintures de Taillemer,
peintures à l'huile,
qui est peintre et sculpteur,
voilà,
donc,
et qui sont des travaux préparatoires à des sculptures monumentales. Alors nous aurions aimé pouvoir exposer des peintures qui auraient été en première intention ou ultime intention. Des tableaux peints pour être des tableaux, car il est aussi un grand peintre. Elles étaient en Italie, malheureusement, pour une grande rétrospective qui a lieu en ce moment. Mais nous sommes déjà très heureux d'avoir pu obtenir ces
quatre peintures. Et voilà un artiste qui a la conscience du passé, parce que pratiquement toute sa thématique tourne autour de la mythologie, tourne autour des grands thèmes, à la fois de la mythologie grecque, mais aussi des maniéristes italiens, donc de l'architecture jusqu'à l'architecture visionnaire de Ledoux. Enfin, on est vraiment dans un monde, là aussi, qui est enraciné dans un passé, mais qui est forcément réactualisé. Alors, le dernier... Non, pardon, l'avant-dernier. Jean-Pierre Véli. Alors, qui est un artiste décédé. C'est le seul qui ne soit pas parmi nous. Attendez.
Oui, en 1990.
Oui. Qui a disparu tragiquement dans le lac de Bracciano. Il s'était installé à Rome. C'est un premier Grand Prix de Rome en taille douce, donc graveur. Un éminent peintre également, donc quelqu'un qui est rompu à toutes les techniques, qui a la connaissance de l'histoire de l'art italienne, française, flamande, hollandaise. Et nous avons un autoportrait au crayon qui est d'une virtuosité qui va au-delà de cette virtuosité graphique, parce que on peut mettre en parallèle tous les plus beaux et grands autoportraits, que ce soit Durer, Rembrandt, et donc c'est cet homme qui nous regarde avec un œil vraiment introspectif, qui est celui qu'il exerce quand il peint ou quand il grave au burin. Alors, c'est un grand classique, là aussi, un grand classique, un peintre classique qui contourne ce classicisme en le disséquant, en l'interrogeant, en faisant ressortir toute l'étrangeté qui avait été celle, justement, des maniéristes, qui avaient fait dévier la beauté de la Renaissance. Il y a de l'inquiétude, il y a effectivement quelque chose de tout à fait particulier. Donc, il y a à la fois ces principes d'interrogation, de décomposition, de dégradation, de dislocation, dans des thèmes extrêmement variés, parce que ce sont des arbres, mais alors généralement des arbres dénudés, ce sont des insectes, ce sont des vases de fleurs fanées, quand ce ne sont pas des portraits. Et il fait des associations aussi entre tous ces éléments pour nous donner une approche morphologique de la... du monde et de la nature humaine qui surprend et qui là aussi laisse un sentiment de grande beauté dans cette inquiétude.
Oui, et avec cet autre dessin qui est un nu, dont le titre est Luigi, et qui sont deux des moments, vraiment des sommets de l'œuvre de Véli. Nous devons les quatre œuvres à Pierre Rigonnet, qui dirige les archives Véli, et qui connaît merveilleusement bien l'œuvre de Véli.
Et le dernier artiste, donc, par ordre alphabétique, Pascal Vinardel.
Pascal Vinardel, avec une toile monumentale que la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a bien voulu nous prêter, que nous avons fait venir de Bordeaux, et qui est une représentation rêvée, idéalisée peut-être d'une ville dont Vinardel a fait l'expérience dans son enfance. Quand je dis une ville, c'est pas seulement la ville de Bordeaux, mais c'est un urbanisme et une manière de vivre en société dont il déplore la perte, au fond. Et donc nous avons cette grande huile symphonique, magistrale, très séduisante, très attirante.
C'est comme une scène de théâtre, parce qu'en fait, les différents parties qui construisent le tableau, ce sont des bâtiments, ce sont des palais qui bordent une place, qui s'ouvrent elles-mêmes sur un rivage, il y a la mer, donc il y a une démultiplication des plans. Et pour justement parvenir, et il parvient magistralement, à un espace illusionniste. Oui. On parlait de l'illusionnisme tout à l'heure, c'est ça. Oui. Comment maîtriser justement cette perspective à partir de ces plans qui sont pleins de saveurs picturalement.
Il y a une grande avenue qui remonte toute la verticale du tableau, presque jusqu'à l'horizon.
C'est presque panoramique.
Qui nous attire. Et puis cette courbure de l'horizon, Le point de vue du spectateur est en hauteur, suspendu à une nacelle dont on voit l'ombre sur une des façades. Et c'est un regard de découverte, c'est un regard de première fois. Quand on est placé dans cette situation étonnante, voilà, d'un point d'observation artificiel et qui nous fait découvrir ce qu'on n'avait jamais vu quand on marchait sur le plancher des vaches. Et donc, ce à quoi je suis très sensible, c'est ce sentiment de première fois et même de jeunesse. C'est une ville et un monde dans sa jeunesse ou dans la jeunesse du spectateur, en tout cas du peintre. Et je trouve ça très émouvant et très profond en même temps.
Alors, je parlais tout à l'heure, au début de notre entretien, de l'illusionnisme qui était repensé, redéveloppé, qui était distribué et réalisé d'une autre façon que l'illusionnisme traditionnel, bien qu'il le soit là aussi. Mais l'illusionnisme du réel avec Vinardel, parce qu'en fait, ces bâtiments, ce sont des bâtiments aussi qui sont mémoriels parce qu'ils appartiennent à des villes dans lesquelles Vinardel a vécu, qu'il a aimé. Donc, il y a des souvenirs de Marrakech, de Casablanca, qui est sa ville natale, mais de Naples, de Marseille. On ne sait pas très bien. Donc, c'est une vue réinventée, une peinture qui part d'un réel pour réécrire un autre réel à partir justement d'un illusionnisme pictural. Et il y a toutes ces imbrications, vrai, faux. La peinture est là, elle est vraiment solide. Moi, ce qui me frappe beaucoup chez Vinardel, c'est l'unité de la lumière. C'est-à-dire que c'est une lumière qui inonde et qui, là aussi, modèle puisque ce sont des bâtiments donc, qui modèlent les différentes parties architecturales de la composition, et qu'on a une lumière extrêmement blonde, une lumière qui a une tactilité, qui a une vibration particulière, et ça, pour moi, bien évidemment, ça s'inscrit aussi à la suite de Corot.
Absolument, et de toute la peinture.
Et c'est vraiment les Corot d'Italie,
cette unité. Elle vient du dessin de la composition, c'est sûr, mais elle vient surtout du regard de l'artiste lui-même, de son talent et de son médium ici, qui est l'huile.
Et bien sûr.
Et qui est le médium symphonique par excellence, qui permet à l'artiste sortir tous les instruments de son orchestre et de les faire jouer ensemble, de les faire tenir ensemble dans un même monde. Dans un même regard et dans un même instant.
Et la lumière souligne justement les emboîtements de ces différentes parties architecturées et architecturales. Et donc, il y a effectivement ces déplacements, il y a ces zones d'ombre qui, à ce moment-là, soulignent et renforcent certains éléments. Donc, c'est tout un jeu comme ça de va-et-vient, de mouvement, qui fait que la toile est extrêmement mobile, alors que c'est une vision statique, figée. Il faut signaler aussi qu'il n'y a aucun personnage. Ce sont des vues qui sont complètement
Enfin, là ici, il y a quand même.
Il y a deux. Oh, elles sont.
Il y en a quelques-uns.
Ils ont leur ombre d'ailleurs.
Voilà,
c'est vraiment un petit trait, un petit bâtonnet.
Mais il y a le commanditaire.
Mais dans l'ensemble,
il y a une muse. Il y a parmi ces petites. Il y a des personnages qui ont un sens.
C'est pas quelqu'un qui a cherché à représenter la figure. Ça passe par justement une scène qui est une scène urbaine et avec tout le côté imaginaire et poétique. Un mot que nous n'avons pas encore prononcé, c'est qu'il y a énormément de poésie chez tous. Ce sont des poésies qui sont visibles, qui sont tactiles, encore une fois par les sujets, par le réel, par ce réel auquel ils restent tellement attachés.
Alors, chez Vinardel, là, dans ce tableau qui est une sorte de panorama et un paysage vu à une certaine distance, il y a de petits personnages, mais il y a quand même dans la peinture de Vinardel parfois des personnages qu'on voit très bien à partir du moment, rarement hein, c'est vrai, mais à partir du moment où la distance n'est pas trop grande, on les voit tout à fait. Mais c'est vrai que, je voudrais juste dire un petit mot sur ces questions-là, on a parfois tendance à reprocher à tel ou tel peintre de ne pas mettre de personnages dans ses tableaux. Vous avez peut-être entendu
Ça dépend du sujet. Il y a des sujets qui n'ont pas besoin de personnages.
Vous avez peut-être entendu cela dans le paysage. Et pour Boubounel, souvent, j'ai entendu
Théodore Rousseau, il n'y a quasiment pas de personnages.
Ça manque de personnages. Et je voudrais dire deux choses à ce sujet. D'abord, c'est Schelling qui disait que c'était une indignité pour le peintre d'avoir à rajouter des personnages pour animer son paysage, pour le rendre plus intéressant, pittoresque. Et deuxièmement, dans toutes les photos que nous prenons, de villes ou de paysages, de vacances, on ne voit quasiment jamais personne. Hein, si c'est un paysage qui est pris à la distance à laquelle est peinte, sont peints les tableaux de Boubounel ou de Vinardel, on ne voit quasiment rien. Si on prend une photo de la Seine à travers la fenêtre, on ne verra que des tout petits points minuscules, on ne verra quasiment rien.
Mais justement, mais ça, c'est une autre histoire. C'est l'école du paysage français. Et Dieu sait si, justement, le paysage français a eu du mal à s'imposer. Il commence à s'imposer seulement en 1816, lorsque l'école des Beaux-Arts décide enfin de créer un grand prix de Rome du paysage. Alors ça, c'est magnifique, parce qu'effectivement, c'est le triomphe du paysage en tant que genre noble, ce qu'il n'avait pas avant, puisqu'il fallait obligatoirement mettre des personnages. Alors ça va à petits pas, puisque au départ, il y a le paysage dit historique, le paysage composé, où il y a effectivement une belle vision de la nature, mais il faut mettre des petits personnages bibliques ou mythologiques qui rappellent quand même que, voilà, un paysage, il n'est jamais isolé, jamais seul. Mais ce n'est pas le cas de certains de nos grands peintres. Donc, nous avons présenté ces 10 artistes et nous incitons vivement nos auditeurs à aller voir cette très, très belle exposition. Donc, je rappelle le lieu, c'est la mairie du 5e arrondissement, place du Panthéon, jusqu'au 30 octobre, et du lundi au samedi de 10h à 18h. Alors, il y a deux tables rondes, enfin, deux interventions avec, justement, chacune un peintre qui vient s'entretenir avec un écrivain ou un critique d'art. Alors, je vous donne les rendez-vous. Le jeudi 19 octobre à 18h30, ça se passe donc à la mairie du 5e arrondissement. André Boubounel, peintre, s'entretient avec Andrei Makin, écrivain. Et le 26 octobre, toujours à 18h30, dans le même lieu, Philippe Garrel, peintre, s'entretient avec Alain Avila, éditeur et critique d'art, et qui est également commissaire d'exposition. Alors, je rappelle que cette exposition, le commissaire en est Vincent Pietrica, qui s'est entretenu avec moi, et je le remercie de sa présence.
Merci, Léa.
Nous remercions, bien sûr, Madame Florence Berthoux, qui est le maire du 5e arrondissement, qui a permis de déployer ce bel événement. Il faut savoir aussi que vous pourrez continuer à savourer l'exposition et à vous enrichir des œuvres de ces 10 artistes avec un catalogue qui a été édité, avec une préface donc de Monsieur Marc Fumaroli de l'Académie française, des textes qui clôturent une postface qui réunit des textes de Jean Clair de l'Académie française. Et moi-même, donc, j'ai écrit tous les textes concernant ces 10 artistes. Et voilà, un très grand moment. Ça a été une belle expérience humaine et artistique. Et nous espérons qu'il y aura d'autres étapes à cette belle entreprise pour faire connaître et défendre la grande peinture française, aujourd'hui figurative.
Merci, Lydia.
Merci.